Alors, c'est chouette de se retrouver ici pour moi. C'est la première fois que je viens dans l'église de Istres, mais j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Je vous explique un peu pourquoi. Parce que lorsqu'on est arrivé du Canada, en 2006, on a été parachuté, c'est-à-dire accueilli chez les Bernards. Et c'était spécial parce qu'on ne se connaissait pas et on devait rester 3 semaines. Imaginez une famille qui arrive, 2 enfants, le mari, et là, vous avez des invités pendant 3 semaines que vous ne connaissez pas. Et je me suis dit, mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque, Seigneur? Et eux, ils ne savent pas dans quoi qu'ils s'embarquent en nous invitant. Mais finalement, il y a vraiment eu un beau déclic, tellement beau qu'on a même eu la chance et la bénédiction d'avoir leur fils, André, qui est venu vivre à la maison pour quelques années aussi. Donc, je me sens comme à la maison. Alors, et vous savez, dans le fond, quand on y pense, on va passer l'éternité ensemble, hein? Donc, ce matin, et c'est jamais comme ça de toute façon pour moi, mais la prédication ou apporter un partage ou un message, ce n'est pas une performance. Moi, ce que j'aime, c'est du cœur à cœur, parce qu'on a besoin des choses qui sont vraies, qui nous encouragent, n'est-ce pas? Et la thématique d'aujourd'hui, l'estime de soi, c'est vrai, c'est vraiment d'actualité, et ça va l'être de plus en plus d'actualité aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Surtout pour cette génération-ci, parce que je ne sais pas si vous regardez un petit peu, mais il y a plusieurs articles justement qui sont en train de sortir parce que des psychologues et des sociologues regardent les effets de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Et de plus en plus, on dit qu'on est dans une génération très narcissique, qui est beaucoup tournée vers le soi, qui est beaucoup tournée vers nous-mêmes. Et qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux affectent justement l'estime de soi, n'est-ce pas? Alors, c'est très, très important ce que nous faisons aujourd'hui, de quoi nous allons parler. Et j'ai voulu donner un titre, et le titre, c'est « Plus de valeur que les perles ». Plus de valeur que les perles. Et j'ai entendu une histoire que j'ai trop aimée, et par la suite, j'ai fait quelques petites recherches, et je ne sais pas si vous saviez, mais en 1997, à New York, aux enchères de Sotheby's, il y a eu une vente aux enchères d'un collier de perles. Un collier de perles qui valait 10 $ lorsqu'il a été acheté, parce que c'est un faux. Ce n'était pas un vrai collier de perles. Mais aux enchères, les gens, avant de le mettre justement en vente, ils ont estimé ce collier de perles et ils ont dit maintenant, ce collier vaut environ entre 500 à 700 $ Et ils ont mis le collier de perles aux enchères, mais les enchères se sont mis à grimper. Et il a été vendu à 211 000 $ Il a pris 21 000 fois sa valeur. Pourquoi? À cause du propriétaire, une femme défunte, qui n'est plus de ce jour, mais à cause du propriétaire, eh bien, le collier de 10 $ est devenu à 211 000 $ Qui était cette propriétaire? Jackie Kennedy, l'épouse de John F. Kennedy. Un jour, rapidement, elle a dû s'acheter un collier, peut-être pour aller avec un de ses costumes, de ses robes. Elle a pris ça, 10 $ rapide, et des années plus tard, alors qu'elle n'existe même plus, ce collier vaut une grande valeur. Et moi, je me dis, si un collier qui appartient à une femme qui n'existe plus a une grande valeur, nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu est majestueux. Dieu a une plus grande renommée. Dieu est beaucoup plus remarquable qu'elle. Alors, c'est ça qui fait que nous avons de la valeur, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que la vérité, c'est que pour Dieu, nous avons de la valeur. Et vous savez, c'est écrit dans Proverbe 31:10, « Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. » Donc, le titre va avec ce verset. Et là, peut-être que vous vous dites, « Oh! » Le classique, une réunion de femmes, donc on va parler de Proverbe 31. Ce proverbe, Justine, c'est vrai que ce proverbe, quand on le regarde, on a l'impression que c'est une utopie, hein? Que c'est la femme parfaite. On ne va pas parler du Proverbe 31 aujourd'hui, mais j'ai voulu prendre quand même ce verset. Je veux vous inviter à avoir un autre regard sur le Proverbe 31. Je veux vous inviter à réaliser que, vous savez, c'est quoi le Proverbe 31? C'est la Mona Lisa de Dieu. Vous voulez savoir comment Dieu voit la femme? Lisez Proverbe 31. Vous voulez savoir quelle est l'intention de Dieu pour la femme? Qu'est-ce qu'il veut créer en nous? Qu'est-ce qu'il veut développer? C'est Proverbe 31. Et ce qui est vraiment encourageant pour nous, c'est que Proverbe 31, on voit que Dieu veut restaurer l'image de la femme. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de vous-même. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que pour vous une femme remarquable. Mais Dieu, on voit ici que premièrement, la femme est beaucoup plus que juste du paraître. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est du paraître. Lorsqu'on regarde en Proverbe 21, on voit que la femme, c'est une femme d'action. C'est une femme aussi qui est remplie de talent. C'est une femme qui a un appel et qui a un grand pouvoir d'influence aussi. Donc, c'est extraordinaire de voir tout ça. Et Dieu, ce qu'il veut faire au travers de ce Proverbe 31, c'est restaurer notre image. Donc, on ne va pas parler du Proverbe 31, mais j'avais envie de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et de vous inviter, moi, tous les mois, je lis le Proverbe 31. Et parfois, dans la prière avec le Seigneur, dans mes temps de prière, le Seigneur me fait ressortir peut-être un point, justement, qui veut travailler en moi. Et je me dis, « Ah, ça, Seigneur, j'y arrive pas trop. Ça, c'est pas moi. » Mais Dieu, tranquillement, justement, vient l'opérer en moi. Je ne suis pas Proverbe 31 du début à la fin, mais je peux vous dire qu'il y a certains versets, c'est bon. J'y suis arrivée pas par moi-même, mais par Dieu. Amen. Dieu veut restaurer l'image que nous avons de nous-mêmes parce qu'il a beaucoup été, je crois, bafoué, que ce soit par différentes cultures, que ce soit aussi par la société. Et vous savez, le sens du verbe « restaurer », c'est quoi? C'est de remettre en vigueur. C'est de rétablir dans sa forme première, de remettre en bon état, et de remettre une œuvre d'art dans son état initial. C'est beau, hein? La Bible dit que nous sommes l'œuvre d'art, que nous sommes le chef-d'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Dieu est créateur, il est artiste et nous lui appartenons. Nous sommes son chef-d'œuvre, donc Dieu est le premier des restaurateurs. Maintenant, il restaure, David a dit, il restaure mon âme. Le plus important, c'est l'âme, ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible va affecter par la suite le visible. Alors Dieu commence par l'âme. Et j'ai fait quelques recherches concernant le métier de restaurateur. Je me suis dit, c'est quoi un restaurateur au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Et un restaurateur, il va faire deux choses au tout début, deux choses très, très importantes. Vous savez c'est quoi? Il va chercher et il va prendre. Donc, il va chercher quoi au juste? Je peux vous dire que sur Paris, il y en a des restaurateurs avec toutes les musées que nous avons, avec toutes les choses juste extraordinaires qui se trouvent. Il y a beaucoup de restaurateurs. Et le restaurateur va faire quoi? Eh bien, il va chercher et il va prendre. Il va chercher quoi? Il va chercher des tableaux aux couleurs assombries par le temps. Il va chercher aussi des sculptures qui ont été ternies peut-être par la pollution. Il va chercher des jarres qui ont été brisés. Il va chercher aussi des meubles qui sont endommagés. Et son objectif au restaurateur, c'est quoi? C'est de rendre l'objet ancien à son aspect initial. C'est de lui donner une seconde jeunesse. Alors moi, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes venus ici aujourd'hui. On a tous des saisons de nos vies qui peuvent être différentes en tant que femme. Mais je me dis que si jamais vous regardez, vous dites « Ouh, si tu savais, Justine, moi j'ai l'impression que je suis une jarre un peu brisée. » Eh bien, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Peut-être que vous regardez aussi à votre vie, vous vous dites, oui, je suis ternie par la pollution peut-être du péché, que je n'arrive pas justement à avoir la victoire sur les doutes, ou peut-être que les circonstances de la vie sont venues assombrir peut-être les couleurs dans lesquelles votre vie était avant. Mais je veux vous dire, vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Pas parce que moi je suis ici, parce que moi je ne peux rien faire pour vous, pas parce que nous sommes tous ici, mais parce que Dieu est ici. Et c'est vraiment de lui que nous avons besoin. Et lorsqu'il vient, il fait des choses, des belles choses, n'est-ce pas? Alors Dieu sait très bien l'importance de cette estime de soi. Et l'estime de soi qu'il veut donner à la femme chrétienne, c'est une estime qui va être équilibrée, justement, qui va être saine. Parce que lorsqu'on regarde dans le monde, lorsqu'on lit plusieurs articles, lorsqu'on voit faites les 15 étapes de ci, de ça pour pouvoir justement avoir une bonne estime de soi, c'est beaucoup tourné vers soi, justement, et c'est toujours nous qui devons essayer de se changer, de se motiver, de se transformer pour être meilleur, pour être plus belle, pour être, avoir plus d'assurance. Pour... Et puis, au bout de la ligne, c'est une course qui nous épuise. Mais avec Dieu, c'est complètement différent. Vraiment, c'est différent. Juste vu qu'on va parler du sujet, je me suis dit, ça serait bien qu'on sache c'est quoi la définition de l'estime de soi, n'est-ce pas? Et l'estime de soi, c'est le jugement que l'on a de soi et que l'on porte sur soi. Et le rapport qu'il y a, il y a deux rapports, c'est le rapport entre ce que nous sommes en tant qu'individus, mon apparence physique, peut-être aussi ma réussite sociale, et ce que je souhaiterais être. C'est le lien entre ce que je suis, ce que je pense de moi et ce que je souhaiterais être. Et il y a un fait qui est très, très important, c'est que le poids du regard d'autrui, le poids du regard des autres est un facteur très, très puissant selon les psychologues pour avoir soit une bonne estime de soi ou soit en avoir une mauvaise. C'est pour ça qu'on dit que les parents, ce qu'ils disent à leurs enfants, comment ils élèvent leurs enfants, est tellement primordial, joue pour beaucoup, parce que nous sommes justement à partir du petit âge, celui qui va influencer par notre regard, par notre parole, nos enfants. Mais on continue et on grandit, on est toujours là, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais, si les psychologues disent que le poids du regard d'autrui est un facteur puissant pour l'estime de soi, pour bâtir une bonne estime de soi, alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas au regard de Dieu? Quel est le regard que Dieu a sur nous en tant que femme, n'est-ce pas? Et puis, nous allons regarder à une histoire ensemble que vous, probablement, vous connaissez très bien. Mais je crois que l'histoire de cette femme que l'on retrouve dans la Bible, cette femme a vécu, je crois, une transformation. Elle a vécu une restauration dans l'image, dans l'identité qu'elle avait d'elle-même. Et nous, notre texte est dans Marc 5, le verset 21 à 42. Vous savez quoi? On ne va pas tout le lire, on va lire que deux versets, parce que si on le lit, c'est quand même presque 20 versets qui sont attribués à cette histoire, mais je vais vous la raconter. Alors, il était une fois, vous aimez les histoires? On va faire comme si on était dans un camp. Donc, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Combien d'entre vous, vous la connaissez, cette histoire? D'accord. Mais je vais quand même la raconter. C'est assez spécial, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette histoire, il y a deux histoires qui se passent en même temps. C'est un peu comme un feuilleton télévisé. Hein? Des fois, on écoute les feuilletons télévisés et il y a deux histoires qui se passent en même temps. Et là, c'est la même chose. Et l'histoire est celle-ci, c'est que Jésus, voilà, il est en route, il est en chemin, il est dans un village. Il y a un homme très connu, un homme pieux, un homme pur, un homme, un chef de synagogue qui s'appelle Jaïrus, c'est ce que le texte nous dit, qui vient justement au pied de Jésus devant tout le monde le supplier parce que sa fille de 12 ans, elle est mourante, elle est en train de mourir. Et Jésus dit, oui, je vais aller chez toi. Donc Jésus est en chemin pour accomplir une mission. Il est en chemin pour répondre à une requête. Il est en chemin pour pouvoir répondre à quelqu'un. Et alors qu'il est en chemin pour répondre à quelqu'un, alors qu'il y a beaucoup de gens, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Parce que Jésus, à cette époque-là, il était à l'apogée de son ministère. Jésus vient justement, il a fait la multiplication des pains et des poissons, là où il y avait plus de 5000 hommes, donc on ne calcule pas les femmes en plus des enfants, donc il y avait beaucoup de milliers de personnes. Et là, littéralement, Jésus a toujours une foule qui le suit. Et puis, même à un certain moment donné, il y a tellement trop de gens qui demandent aux disciples, mettez-moi dans une barque parce que j'ai l'impression que je vais presque me faire écraser tellement qu'il y a de gens. Alors, Jésus, il est là, il marche et il est en route vers la maison de Jaïrus pour pouvoir justement guérir sa fille de 12 ans. Et dans cette foule se trouve une femme, se trouve cette femme à la perte de sang. Et elle a juste un objectif. Elle suit la foule. Pas pour voir qu'est-ce que Jésus va faire pour quelqu'un d'autre. Elle suit parce qu'elle, elle veut toucher Jésus. Parce qu'elle, elle a besoin de son propre miracle aussi. Et finalement, comme on sait très bien l'histoire, elle va toucher le vêtement de Jésus. Et c'est extraordinaire ce qui prend place parce que Jésus, il y a une force qui sort de lui, il arrête tout. Il arrête tout. Essayez de vous imaginer. Parce que nous, des fois, on lit cette histoire. Moi, au début, je la lisais avant de faire des recherches et je m'imagine les 12 disciples avec Jésus, avec 5-6 personnes alentour. Et puis, mais là, ils sont probablement pas des centaines, sont peut-être 1000 ou même plus. Et les rues, ce n'est pas des boulevards avec 4 allées, c'est plus étroit, c'est Israël. Alors, tout le monde était probablement très serré. Ça semblait impénétrable pour elle. Mais Jésus est en chemin vers une mission précise. Tout le monde probablement le sait très bien que Jésus est en chemin vers Jaïrus parce que c'était rare qu'un chef de synagogue s'humilie comme ça et demande de l'aide. Et probablement, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait le téléphone arabe. Peut-être pas en Israël, mais bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout le monde dans la foule savait, on s'en va chez Jaïrus. Et là, Jésus arrête tout. Il arrête tout. Il arrête tout parce qu'il est touché par quelqu'un. Il va s'arrêter, il va dire qui m'a touché. Et un des disciples va dire, mais maître, tout le monde te frôle, on se touche tous les uns les autres, on est entassés comme des sardines. Et puis Jésus va dire, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et là, c'est beau parce que cette femme va prendre son courage et elle va arriver, elle va dire, c'est moi. Et Jésus va lui parler. Il va lui donner une parole. Et par la suite, Jésus va continuer son chemin. Il va arriver chez Jaïrus. Tout le monde est en train de pleurer parce que la fille de Jaïrus, elle est décédée, elle est morte. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va mettre tout le monde dehors. Il va rentrer avec les parents. Il va opérer le miracle. Et il va dire à Jaïrus, « Tu ne dis rien à personne. Prends soin, donne-lui à manger à la faim. » Et il repart. Ça, c'est notre histoire, c'est notre texte aujourd'hui. Maintenant, Jésus est en chemin pour répondre à la requête de Jaïrus. Mais cette femme-là, elle voulait absolument toucher Jésus. Et le verset qui me touche bien, moi, c'est le verset 25 dans cette histoire. Et quel est ce verset? C'est une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. La pauvre. Quelle identité, quand vous y pensez. Quel nom? Quel descriptif? Elle est la femme à la perte de sang. Pourtant, peut-être qu'elle était gentille. Peut-être qu'elle était mariée. Peut-être qu'elle faisait bien à manger aussi. Mais ce qui l'identifiait, ce qui lui donnait une valeur ou pas de valeur, eh bien, c'était ce qu'elle vivait, c'était sa maladie. C'est la femme à la perte de sang. Et aujourd'hui, parfois, lorsqu'on regarde à nous-mêmes ou même lorsqu'on évalue d'autres, on utilise aussi des termes et on ne s'en rend pas compte. Et Dieu, lui, il ne va pas utiliser ces termes-là. Mais combien de fois, des fois, on peut dire, « Ah oui, elle, c'est l'ex de... Ah oui, c'est la divorcée. Ah oui, elle a été congédiée. Ah, c'est la femme au cancer là, qui a le cancer. Oui, c'est la veuve. » Ah oui, elle, c'est la stérile. Elle, c'est celle qui a perdu son enfant. Ah, elle, c'est la retraitée qui est un peu déprimée. On ne s'en rend pas compte, mais parfois, ce qu'on pense de nous-mêmes ou ce comment on décrit les autres, on met un focus. Et Dieu ne met pas la lumière sur ces choses-là, lui. Et pour elle, c'était quoi son descriptif? C'était « Je suis la femme à la perte de sang ». Et à cause de cette maladie, elle vivait dans une grande souffrance et une grande solitude. Parce qu'à cause de la loi, à l'époque, ce qu'ils pratiquaient à l'époque, pour elle, c'était juste impossible de toucher qui que ce soit. Parce que qui que ce soit qu'elle touchait, elle les rendait impures. Mais là, cette femme-là, elle va oser quelque chose. Elle va se frayer un chemin parmi une foule. Alors qu'elle sait qu'elle rend probablement toutes les gens qu'elle frôle impures, et elle va faire le pire. Elle va essayer de toucher le vêtement, pas de n'importe qui, d'un maître, d'un rabbi, de quelqu'un qui est digne. Elle va le faire. Avec le peu d'énergie peut-être qui lui reste, elle va se rendre jusqu'à lui, et à cet instant-là, Jésus va sentir une énergie qui sort de lui. Je ne sais pas si vous réalisez la concentration et la détermination qu'il a fallu pour cette femme-là, pour justement investir pour toucher Jésus. Il y a tellement de raisons en elle et autour d'elle qui auraient pu l'empêcher de toucher à Jésus. Et les mêmes raisons auxquelles elle faisait face, qui étaient autour d'elle et en elle, sont encore là aujourd'hui dans nos vies et dans nos cœurs. Parfois, on peut avoir les mêmes raisonnements. Pourquoi est-ce que c'était peut-être difficile d'aller toucher Jésus? Parce parce que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment parce que, premièrement, Jésus est en mission pour aller toucher quelqu'un d'autre, pour aller guérir quelqu'un d'autre. Il n'était pas venu pour toi. Il y a quelqu'un qui est venu avant toi. Mais elle s'est pas laissée arrêter avec tout ça. En plus, son besoin à elle n'était pas aussi pressant. Il y avait un besoin pour quelqu'un d'autre qui était plus pressant. La fille de Jairus était mourante, elle avait 12 ans. Elle, la Bible nous dit que ça fait 12 ans qu'elle gère sa maladie. Attendre une journée de plus ou une journée de moins, pourquoi chercher à se frayer un chemin, à prendre toute son énergie pour pouvoir toucher Jésus? Mais elle s'était dit, c'est assez. J'ai besoin de vivre un tournant. Je ne veux plus prendre les choses en main comme je l'ai fait depuis les 12 dernières années. J'en ai perdu tout mon argent, parce que la Bible dit qu'elle n'avait plus d'argent parce qu'elle avait consulté tous les médecins, tous ceux qu'elle croyait qu'ils vont pouvoir me venir en aide, et rien n'a fonctionné. Elle aurait pu s'arrêter puis dire non, je ne vais pas y aller parce qu'il y a quelqu'un d'autre de plus important que moi. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis impure. Lui, Jairus, il est pur. C'est un chef de synagogue. Moi, je suis une femme. Surtout à l'époque, les femmes étaient moins considérées. Lui, c'est un homme. Elle aurait pu rentrer peut-être dans tout ce comparatif, mais elle s'est frayé un chemin et discrètement, sans apparat, elle est allée toucher Jésus. Elle n'est pas rentrée dans le piège de la comparaison et la liste aurait pu être très, très longue. Parce que c'était facile de se sentir indigne et pas à la hauteur, n'est-ce pas? Lui, un homme, elle, une femme. Lui, connaissant très bien la loi et obéissant à la loi, et même enseignant, elle, peut-être peu instruite et peut-être même exclue de peut-être même aller à la synagogue parfois à cause de sa maladie. C'était un accès qui était juste impraticable pour elle. C'est impraticable, pourquoi? Parce qu'il y avait une grande foule, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était pas juste 12 potes qui marchent alentour du rabbi avec quelques gens qui le suivent, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens. C'était des milliers qui étaient là. Mais regardez avec moi ce qui se passe quand Jésus est touché, lorsqu'on le touche. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est qu'il arrête tout. Il arrête tout. Jésus aime, Dieu aime des moments d'arrêt, des moments de pause. Et nous, on veut que les choses avancent, on veut que ça aille rapide, on veut que tout soit réglé rapidement. Et Jésus, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête tout. Et il se dit, il y a quelqu'un qui croit en moi. Ce qui le touche, c'est son cœur de foi. Et regardez la réponse de Jésus, c'est ça qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Le deuxième verset, c'est le verset 34 que nous allons regarder. Mais regardez la réponse qu'elle a reçue. Elle qui voulait passer inaperçue, elle qui n'estimait pas peut-être être digne d'avoir de l'attention, Jésus va tout arrêter et il va l'exposer. Il va dire, qui m'a touché? Je veux savoir c'est qui. Il savait très bien qui l'avait touché, c'est le créateur de l'univers. Mais il ne veut pas l'exposer pour l'humilier, pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait là? Pour qui tu te prends? Non, il veut l'exposer au contraire pour faire d'elle un modèle, pour l'honorer aussi. Tellement qu'aujourd'hui, nous, on est là 2000 ans plus tard et on parle d'elle. Et c'est notre modèle, notre inspiration. Jésus cherche à savoir qui elle est parce qu'il veut, il désire l'élever dans un sens, il désire l'honorer. Il va faire d'elle un exemple de foi. Et qu'est-ce qu'il va dire dans ma version? Il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix, sois guérie de ton mal. Quelle réponse extraordinaire! Très, très généreuse aussi, qui dépasse, je pense, toutes ses attentes de sa requête. Elle est venue pour une chose, elle va repartir avec quatre. La première chose que Jésus va lui dire, c'est ma fille. Je ne sais pas, quand on lit les autres histoires, souvent, Jésus va dire femme. Il aurait pu dire aussi juste toi, fille. Mais là, il y a un petit mot qui change tout, c'est ma. Fille. Elle qui semblait ne pas avoir d'identité, elle qui semblait peut-être avoir l'estime de soi au ras des pâquerettes, Jésus arrête tout, dit « Qui m'a touchée ?» et se tourne vers elle et lui dit « Ma fille ». En un mot, il est en train de l'adopter devant tous. En un mot, il l'adopte. Cette femme qui était exclue, évitée, négligée, Jésus lui vient Et il fait plus que même juste s'associer à elle, mais il l'adopte. Elle n'avait jamais demandé d'être adoptée, d'être aimée ou d'être juste honorée. Elle voulait juste une chose. J'ai besoin d'être guérie. Un point, c'est tout. Pour elle, probablement qu'elle se disait, si je peux juste être guérie, tout va être réglé. Hein, mon problème, c'est ça, là. J'ai besoin d'une guérison. Mais Jésus savait plus. Et saviez-vous que dans la loi juive, les femmes qui avaient soit une maladie ou une perte de sang, elles avaient droit de toucher le vêtement que de deux personnes. Savez-vous qui? Soit leur époux ou soit leur père. Soit leur époux, soit leur père. Donc, elle était dans tous ses droits de pouvoir toucher à Jésus. Parce qu'il représentait Dieu, homme, en tant qu'homme, mais Dieu est un père. Et il est le merveilleux époux, parce que Christ, quand il va revenir, il vient chercher une épouse, son Église. Donc, elle était dans tous ses droits de toucher. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, « Ma fille, tu penses que tu n'avais pas le droit, que tu ne pouvais pas, mais oui, tu peux. » Amen. Jésus, par la suite, je crois qu'il veut nous dire la même chose à nous aussi aujourd'hui. « Ma fille, parfois, on le prend peut-être pour acquis, oui, je suis enfant de Dieu, mais que ça devienne quelque chose de personnel. » C'est merveilleux quand on vient, qu'on a des bonnes réunions, qu'on va sur Internet, on clique, on écoute des prédications et tout ça. Mais il n'y a rien de plus extraordinaire que lorsqu'on est dans un lieu secret et que le Seigneur vient nous dire, « Ma fille, c'est de ces moments-là qu'on a besoin. » C'est ça qui vient édifier, fortifier, fonder notre estime. C'est ce que lui pense de moi, c'est ce que lui dit de moi. Jésus désire vraiment avant tout nous révéler qu'on lui appartient, que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes ses filles. Je pense que de savoir que nous sommes la fille de Dieu devrait relever notre tête. Amen. Le poids du regard de Dieu sur nous est le facteur le plus puissant pour avoir la meilleure estime de soi. Ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu pense de moi, est le regard qui a le plus de poids pour justement avoir cette estime de soi qui est fondée. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que lui, il est immuable. Lui ne change pas d'avis. Qu'on ait des bonnes journées ou des mauvaises, qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien, qu'on soit dans un haut ou qu'on soit dans un bas, Dieu, justement, lui ne change pas d'avis. Voilà pourquoi c'est important de se nourrir de qu'est-ce que lui pense, de qu'est-ce que sa parole me dit au juste. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre toute la petite énergie peut-être qui nous reste, la petite foi qu'on pense peut-être avoir, pour se frayer un chemin comme cette femme et dire « Je veux toucher Jésus parce que je sais que si je le touche, il attend justement après moi et il a une parole pour moi que lui seul sait que j'ai besoin, qu'il veut me donner. » Amen. On va juste s'arrêter pour réfléchir, parce qu'il faut réfléchir, il faut s'attendre, il faut s'arrêter. Et j'ai besoin que vous pensiez, pas besoin donner des réponses, mais quelle est ma source de mon estime? De quoi est-ce que je me nourris pour avoir une bonne estime de moi-même? Est-ce que c'est mon apparence? Parfois, pour certaines femmes, c'est leur apparence. Et je ne veux pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais on ne va pas toujours avoir l'apparence de lorsqu'on avait 20 ans. Et en plus, il y a la loi de la gravitation qui fait que tout tombe vers le bas. Voilà. C'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, si mon apparence est ce qui bâtit et la fondation sur laquelle il y a toute mon estime, ça peut être délicat, ça peut être dangereux. Est-ce que ce sont mes performances au travail, mes performances physiques? Oh, j'ai la pêche, je suis une femme de... Mais vous savez comme moi qu'il y a des saisons dans notre vie. Même parfois, ça m'est arrivé de voir des femmes qui deviennent enceintes et qui sont chamboulées justement dans leur nature, dans ce qu'elles étaient capables de faire, et tout à coup, leur estime n'est pas la même. Est-ce que ce sont les articles de magazine qui viennent faire un boost et qui est le fond de notre théorie de l'estime de soi. Pas évident parce que les psychologues, les articles parfois changent ou se contredisent, sont paradoxales, c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est ce que les autres disent de moi? C'est vrai que c'est bien d'être honoré, c'est vrai que c'est bien de s'encourager. Mais si l'estime de moi-même repose toujours sur les autres, eh bien, parfois, il y a des gens qui ne feront plus partie de notre vie. Parfois, la vie des gens aussi, leur avis va changer. Parfois, une personne extraordinaire et merveilleuse, peut-être comme un époux, un mari, lorsqu'il quitte, lorsqu'il décède, alors là, à ce moment-là, comment va être mon estime? Alors que je semblais peut-être vouloir vivre pour lui et lui plaire. Est-ce que c'est Facebook? J'ai combien de likes? J'ai changé ma photo de profil. Et puis, j'ai pas beaucoup de compliments. C'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde comme ça aujourd'hui. Moi, je veux vous inviter tout simplement à aller vers Jésus. Parce que Dieu, il est stable dans ce qu'il dit de nous, dans ce qu'il pense de nous, dans ce qu'il veut nous révéler. Jésus a dit « ma fille » et par la suite, il va dire quoi? « Ta foi t'a sauvée ». Ce qui est beau, c'est qu'il va reconnaître que c'est une femme de foi. Je pense que la femme à la perte de sang, probablement qu'elle ne sentait pas qu'elle avait beaucoup de foi. Peut-être que même pour elle, peut-être qu'elle se disait « Ah, si j'avais vraiment la foi, j'aurais osé m'exposer devant tout le monde et je serais allée et j'aurais foncé et je me serais, voilà, livrée devant tous. » Peut-être que c'est une pensée qui a pu passer dans son esprit. Elle ne l'a pas fait. Pourtant, Jésus arrête tout et lui dit « « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Il met le point, il montre avec quoi il veut l'honorer. Il veut honorer sa foi. Et Jésus est en train de faire quelque chose de beau parce qu'il est en train de démontrer à tous qu'en fait, elle a autant de foi qu'un homme qui est pieux. C'est beau. Il arrête tout et lui, il pointe sur sa foi. Et vous savez ce qui est important, la plus belle des vertus chez une femme, à l'époque et aujourd'hui encore, c'est d'être des femmes de foi, de confiance en Dieu, de croire en Dieu. Jésus va toujours mettre l'honneur sur notre foi. Et notre foi va faire en sorte qu'il va pouvoir aussi, qu'il va agir. La foi est tellement importante pour l'estime de soi, parce que la foi, une femme qui a de la foi voit différemment. Parle différemment d'elle-même et des autres. Qu'elle ait eu une bonne journée ou une mauvaise journée, non, Dieu m'aime toujours. Dieu est fidèle. Dieu est là. Dieu ne m'a pas abandonné. La foi, c'est tellement important, justement, pour la construction de cette estime. La femme de foi sait combien elle est aimée, combien elle est appelée, combien elle est précieuse, même si elle a une perte de sang dans sa vie, même si elle est dans un moment où il y a peut-être une perte de sang dans sa vie. Et par la suite, Jésus va lui dire « Vas en paix ». C'est beau parce que lorsque Jésus parle, la chose s'accomplit. Et je suis pas mal certaine que cette femme a dû ressentir de la paix à ce moment-là qui lui a fait du bien d'une façon extraordinaire. Elle qui avait tellement souffert aux mains, par les mains des médecins, elle avait tout dépensé pour être soulagée. Probablement que son cœur vibrait en quelque part de tumulte, de déception, d'inquiétude et de peur. Et Jésus lui vient et il savait très bien qu'elle avait besoin de la paix, n'est-ce pas? Et Jésus va lui offrir sa paix et à la fin de tout, il va dire « Sois guérie de ton mal ». C'est à la fin qu'il va répondre pour la chose pour laquelle elle est venue en premier. Mais Jésus savait très bien que ce qu'elle avait besoin avant d'être guérie. À quoi bon être guérie si je suis au ras des pâquerettes? À quoi bon être guérie si j'ai toujours plein d'inquiétudes quand je retourne à la maison et je ne suis pas en paix? Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix, sois guérie de ton mal. Elle, peut-être qu'elle pensait, si ça c'est réglé, c'est bon. Mais Jésus avait plus pour elle. Il savait qu'elle avait besoin de recevoir beaucoup plus. Elle avait besoin d'avoir une identité qui était restaurée. Elle avait besoin de découvrir qui elle est vraiment. Que juste une guérison ne pourrait pas justement essayer de la combler. Cette histoire est dans la parole de Dieu, pas juste pour que, voilà, on connaît une histoire de plus. Mais Jésus, un jour, un disciple a dit à Jésus, « Montre-nous le Père. » Jésus a dit, « Si vous voulez connaître le Père, je suis venu révéler le Père, regardez à moi. » Donc, si on veut connaître le cœur de Dieu, il faut regarder à Jésus. Et ici, Jésus, dans cette histoire, vient révéler justement l'intention du cœur du Père. Vous savez, on regarde trop à nous. C'est pas plus je regarde à moi, plus mon estime va grandir. On regarde trop aussi aux autres et on se compare beaucoup. Mais on est tous uniques. Et même Jésus va agir dans nos vies et va nous parler de façon unique. Juste dans cette histoire-là, lorsqu'on regarde, c'est vraiment précis et unique et il y a plein de contrastes. Et je les ai énumérés, les contrastes. Même la façon que Jésus va faire pour répondre aux besoins de Jairus et aux besoins de cette femme va être complètement différent. Je l'ai dit tout à l'heure, mais elle, c'est une femme. Lui, c'est un homme. On ne connaît pas son nom à elle. Lui, pourtant, l'auteur a pris le soin d'écrire son nom, Jairus. Elle est considérée impure. Lui, il est considéré comme pur. Elle vient chercher sans rien demander, discrètement. Et lui, il demande devant tous publiquement. Jésus la guérit en chemin devant tous. Et Jésus opère le miracle loin de la foule à l'écart, dans la maison. Il déclare devant tous la guérison de la femme. Et Jésus, pour Jairus, lui recommande à ce que rien ne se sache. Dieu veut agir de façon unique, parce qu'on est tous uniques. Amen. La valeur qu'il porte sur vous ne change pas avec le temps, ni les saisons, ni les difficultés, ni les hauts et les bas. Avec Dieu, on a toujours une valeur. La valeur qu'il nous donne n'est pas circonstancielle. Elle ne dépend pas de nos aptitudes, parce que parfois on peut avoir certaines aptitudes, et parfois, ça arrive qu'on perde même certaines aptitudes. Je pense même avec l'âge, avec certaines maladies parfois qui arrivent. La valeur que Dieu nous donne ne dépend pas du regard des autres, ce qui est à la mode, ce qui l'est pas. Ça ne dépend pas non plus de nos exploits. Ça ne dépend pas non plus si vous êtes connus ou pas. Dieu veut faire de nous des femmes de valeur. Amen. Et c'est lui qui fait de nous des femmes de valeur. Plus précieuse que des perles. J'ai écrit pour une estime de soi sain et équilibré, ce qu'il nous faut, c'est cette simple communion avec lui tous les jours. Parce que tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Vous savez, Jean 1, l'évangile de Jean, commence avec cette phrase qui dit « Tout vient par lui, pour lui et en lui ». Alors, si pour Dieu le Père, tout se fait par lui, pour lui et en lui, bien, je pense que c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent? C'est en apprenant qui il est que nous découvrons qui nous sommes. Retenez cette petite phrase. C'est en apprenant qui lui est, parce que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image », que nous apprenons qui nous sommes. On a chanté un chant. L'apôtre Paul le dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est pour ça qu'il faut que la quête de notre vie, c'est de connaître Christ. Parce que de toute façon, moi, bien sûr, je vis, mais à l'intérieur, spirituellement, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a des choses extraordinaires. Paul va dire, « Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. » C'est complètement la pensée contraire. D'aujourd'hui, la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant? Nos exploits, nos trucs. C'est rare qu'on va aller sur Facebook et qu'une femme va mettre sa photo de quand elle se réveille le matin avec ses cernes et dire « Hier, j'ai loupé tel truc et vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé » et raconter tous ses déboires. Non, on va mettre ce qu'il y a de mieux. On va mettre quand on est bien bronzé, quand on est en vacances, quand... voilà, c'est complètement la pensée contraire. Mais Paul va dire « Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. » Peut-être vous dites, « Oh, Justine, je me sens tellement pauvre. » La Bible dit, « Heureux les pauvres en esprit. » « Ah, Justine, je me sens faible. » Lorsque je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Il y a un verset qui dit « Je puis tout par... » Encore là, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas « Je puis tout parce que j'ai tous les diplômes, j'ai un master plus 5. » C'est pas « Je puis tout parce que je les ai les contacts, moi. » Moi, je puis tout parce que franchement, j'ai les idées et je vais y arriver. Non, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est toujours une vie qui est centrée sur Christ. Et Christ, ce qu'il veut, c'est toujours « Laissez-moi plus de place, dépendez de moi. » Et vous allez voir au travers vous, je vais pouvoir faire et être des choses extraordinaires. Amen. C'est un message qui est tout simple, mais que je pense et qui nous ramène peut-être à l'essentiel. Au lieu de courir à gauche et à droite, penser qu'une nouvelle garde-robe va me donner une meilleure estime, que peut-être d'avoir plus de likes sur Facebook, de peut-être, peut-être que je devrais retourner aux études, ce serait bien quand même que je puisse avoir, voilà, tel truc. Non, c'est pas mal. Bien sûr, on peut aller s'acheter des nouvelles fringues. Il n'y a rien de mal à ça. Bien sûr, si Dieu nous appelle à aller aux études, oui, allons-y. Mais que ce ne soit pas le fondement de ce qui va me donner une valeur. Que ça ne soit pas le fondement de ce qui me donne la valeur. Amen. Peut-être que tu pourrais venir. J'aimerais bien que tu puisses venir. On va prendre un moment ensemble. On va prendre un moment devant Dieu ensemble. Et je pense que si vous êtes venu ici, c'est parce que le sujet, bien sûr, vous a intéressé. Alors, je crois que pendant que j'ai parlé, il y a sûrement quelque chose qui est venu vous percuter. Peut-être que le Seigneur a mis son doigt. Il a dit, tu vois, tu mets tous tes efforts là. Et ce serait temps peut-être que ça change. Ce serait peut-être temps que tu reviennes à la base, à moi. Moi, je suis là. Moi, je t'aime. Et moi, je veux te parler. Vous savez, ce message-là, moi, tous les messages que j'apporte, je dis toujours, j'ai été un peu comme le laboratoire. Et Dieu me les a donnés dans mes moments. Et premièrement, c'était toujours pour moi avant de les donner, voilà, à d'autres. C'est des choses que, quand que je vous dis que Jésus a dit « ma fille », oh là là, ces deux petits mots sont ressortis avec puissance. Et c'est ce que j'avais besoin d'entendre pour moi. Alors, je ne vais pas vous faire venir à l'avant. Ce que j'ai à cœur, c'est que vous ayez un cœur à cœur avec Jésus. Que vous puissiez lui parler, que vous puissiez lui donner justement l'image, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de vous, et puis si le Seigneur a mis son doigt sur quelque chose, que vous puissiez le confesser. Dire, Seigneur, c'est vrai, je mets toute mon attention sur ça, mais je veux que tu me parles, je veux, Seigneur, te demander pardon. Pardon de peut-être avoir négligé et de ne pas chercher à apprendre à connaître qu'est-ce que toi, tu penses de moi. D'accord? On va prendre juste un moment, 5 minutes. Donc, je vous laisse vous recueillir. Un peu comme la Samaritaine au puits. Elle était toute seule avec Jésus. Et on a besoin, de même si on est tous ici, ensemble, on a besoin de se recueillir. Je vous laisse vous recueillir. Seigneur, je te donne ce moment et je te remercie de venir parler d'une façon unique à chaque femme ici dans ce lieu parce qu'elles sont uniques. Amen.